Troisième partie. Paul. C'est inutile. J'ai essayé de dormir depuis une demi-heure et je n'y arrive pas. Écrire ici est une sorte de drogue. C'est la seule chose que j'espère et attends. Cet après-midi, j'ai lu ce que j'ai écrit. Et ça m'a paru plein de vivacité. Je sais que cela tient à mon imagination qui remplit tous les vides qu'une autre personne ne comprendrait pas. C'est de la vanité au fond, mais c'est comme une sorte de magie, et je ne peux tout simplement pas vivre dans ce présent-là. Sinon, je deviendrai fou. John Falls, l'obsédé. Ô Seigneur Jésus, gémit Yann, en faisant un mouvement convulsif en avant. Geoffrey saisit le bras de son ami. Le battement régulier des tambours pulsait dans sa tête, comme quelque chose que l'on entendrait dans un délire meurtrier. Autour d'eux, les abeilles bourdonnaient, mais l'une s'arrêta. Paul souleva la machine à écrire et la secoua. Au bout d'un moment, une petite pièce métallique tomba sur la planche posée entre les bras du fauteuil roulant. Il la prit et la regarda. C'était la barre du T minuscule et T majuscule. La machine à écrire venait tout simplement de se débarrasser de son T minuscule et de son T majuscule. Il pensa: je vais me plaindre à la direction, je ne vais pas me contenter de demander une nouvelle machine à écrire, mais l'exiger, foutre Dieu. Elle a assez d'argent, je sais qu'elle en a assez. Il est dans des pots de confiture plantés quelque part dans la grange ou bien dans un trou du mur de son rigoloir. Mais cette salope d'écureuil a du pognon. Et le T minuscule et T majuscule, bon Dieu, la deuxième lettre la plus courante en anglais. Bien entendu, non seulement il n'exigerait rien d'Annie, mais il ne demanderait pas quoi que ce soit. Naguère, il y avait eu quelqu'un qui aurait au moins demandé. Un homme qui souffrait infiniment plus. Un homme qui n'avait rien eu à quoi se raccrocher, pas même ce bouquin merdeux. Cet homme lui aurait demandé. Blessé ou pas, cet homme aurait eu assez de cran pour au moins essayer de tenir tête à Annie Wilkes. Il avait été cet homme. Et il se dit qu'il aurait dû avoir honte. Mais cet homme jouissait de deux grands avantages sur lui. Il avait été en possession de ses deux pieds et de ses deux pouces. Paul resta immobile, pensif, pendant quelques instants, relut les dernières lignes, en remplissant mentalement les lettres manquantes, et se remit simplement au travail. Cela valait mieux ainsi. Valait mieux ne rien demander. Valait mieux ne pas provoquer. À la fenêtre, des abeilles bourdonnaient. On était au premier jour de l'été. Près d'eux. Les autres passaient à côté d'eux et fonçaient vers la clairière comme attirés par un aimant. Ce qu'ils avaient été, pensa Geoffrey. Laisse-moi tranquille, gronda Yann. Il se tourna vers Geoffrey, le poing menaçant. Il avait les yeux exorbités et le regard fou, le visage livide, et il semblait ne plus connaître celui qui l'empêchait de se précipiter vers son amour. Geoffrey se rendit compte avec une froide certitude que ce qu'il avait aperçu lorsque Ézéchias avait écarté l'écran protecteur des buissons, avait été bien près de rendre Yann fou. Il vacillait encore à la limite de la folie, et le moindre geste risquait de le faire basculer définitivement. Si jamais cela arrivait, il prendrait Misery avec lui. Yann, je te dis de me laisser. Yann se débattit violemment. Et Ézéchias gémit d'une voix affolée. Non, Bwana. Toi, Ande, les abeilles furieuses et les abeilles piquées à Mam.
Yann parut ne pas l'entendre. Une lueur sauvage dans l'œil, il lança un coup de poing à Geoffrey, frappant son vieil ami à la pommette. Une gerbe d'étoiles noires fila sous le crâne de Geoffrey. Malgré son étourdissement, il vit Ézéchia qui commençait à faire osciller le gosha, ce sac rempli de sable qu'utilisaient les burkas pour travailler le pré, mais qui pouvait se révéler mortel, et eut le temps de siffler « Non, laisse-moi m'occuper de ça !»
À regret, Ézéchia laissa le gosha s'immobiliser, tel un pendule à l'extrémité de sa lanière de cuir. Puis un nouveau coup de poing envoya la tête de Geoffrey en arrière. Celui-ci lui écrasa les lèvres sur les dents, et il sentit le goût douceâtre et salé à la fois du sang qui lui coulait dans la bouche. Il eut une sorte de bref ronronnement aigre. La chemise de Yann, déjà délavée par le soleil et usée en bien des endroits, venait de se déchirer dans la main de Geoffrey. Dans une seconde, Yann serait libre. Avec une stupéfaction hébétée, Geoffrey se rendit compte que c'était la même chemise que Yann avait portée lors du dîner du baron et de la baronne, 3 jours auparavant. Oui, la même. Il n'avait pas eu un seul instant pour se changer depuis, ni les uns ni les autres. 3 jours seulement. Mais on aurait dit que Yann avait porté cette chemise 3 ans. Et Geoffrey avait l'impression que 3 siècles s'étaient écoulés depuis cette soirée. « Seulement 3 nuits, pensa-t-il de nouveau, toujours stupéfait et hébété. Puis Yann se mit à faire pleuvoir les coups sur lui. « Laisse-moi partir par l'enfer !» criait Yann en martelant de son poing ensanglanté le visage de son ami. Cet ami pour qui, s'il avait été dans son bon sens, il aurait sacrifié sa vie au besoin. « Veux-tu montrer ton amour pour elle en la tuant ?» lui demanda calmement Geoffrey. « Si c'est ce que tu veux, alors il faudra que tu m'assommes avant, mon vieux. » Le poing de Yann hésita. Quelque chose comme un peu de raison parut revenir dans son regard terrifié, affolé.
« Il faut que j'aille auprès d'elle, » murmura-t-il comme un homme qui rêve encore. « Je suis désolé de te frapper, Geoffrey. Vraiment désolé. » « Cher vieil ami, et je suis sûr que tu me crois, mais je dois... Tu la vois ?»
Il regarda de nouveau comme s'il voulait s'assurer de l'horreur de cette vision, et eut l'air de vouloir une fois de plus se précipiter vers Misery, qui se trouvait attaché à un poteau, main par-dessus la tête, au milieu de la clairière. Brillant à ses poignets et la retenant à la branche la plus basse de l'eucalyptus solitaire, au milieu de la clairière, on voyait un objet dont les burkas s'étaient apparemment entichés avant d'envoyer le baron Hedzig dans la bouche de l'idole et vers ce qui était sans aucun doute un sort funeste, des menottes d'un acier bleuâtre. Cette fois-ci, ce fut Ézéchia qui saisit Yann. Mais les buissons bruirent à nouveau et Geoffrey regarda dans la clairière. Sa respiration s'était arrêtée dans sa gorge, comme un morceau de tissu peut rester sur une ronce. Il se sentait comme un homme qui doit escalader une pente rocheuse avec un dangereux chargement d'explosifs dans les bras. « Une piqûre, songea-t-il. Une seule piqûre, et c'en est fait d'elle. « Non, Bwana, non, missier, » répétait Ézéchia avec une sorte de patience terrifiée. « C'est comme dit l'autre Bwana. Si vous sautez là, les abeilles éveillées de l'Ève. Et avec les abeilles éveillées, une piqûre ou 1000 piqûres, c'est pareil. Si les abeilles s'éveillent de l'Ève, nous tous mouillent. Et elles mouillent, la première, à feu. »
Petit à petit, Yann se calma entre les deux hommes, le noir et le blanc. À contre-cœur et horrifié, il tourna la tête vers la clairière comme s'il ne voulait pas regarder, et pourtant ne pouvait s'en empêcher. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'allons-nous faire pour ma pauvre misérie chérie? Je ne sais pas, furent les paroles qui vinrent aux lèvres de Geoffrey. Il était lui-même dans un tel état de détresse qu'il eut toutes les peines du monde à les refouler. Ce n'était pas la première fois qu'il constatait que le fait que Yann possédât la femme que lui-même aimait aussi chèrement, même si c'était en secret, permettait à celui-ci de se laisser aller à une forme étrange d'égoïsme, presque une hystérie féminine à laquelle Geoffrey devait renoncer. Après tout, aux yeux du reste du monde, il était simplement l'ami de Misery. Oui, simplement son ami, pensa-t-il avec une ironie qui frisait l'hystérie. Puis ses propres yeux furent attirés par la clairière, vers son ami. Misery ne portait pas le moindre vêtement, et cependant Geoffrey put se dire, à juste titre, que la plus prude des grenouilles de bénitier n'aurait pu l'accuser d'indécence. Cette hypothétique vieille fille pudique serait sans doute partie en courant à la vue de Misery, mais les cris qu'elle aurait poussés auraient été dus bien davantage à la terreur et au choc qu'au sentiment d'un attentat à la pudeur. Si Misery ne portait pas le moindre vêtement, elle était pourtant loin d'être nue. Elle était vêtue d'abeilles. De la pointe des orteils au sommet du crâne, jusque par-dessus ses cheveux châtains, les abeilles la recouvraient. On aurait presque dit qu'elle portait quelque étrange habit de religieuse. Étrange, car il ne cessait de se mouvoir et d'onduler sur les renflements de ses seins et de ses hanches, alors qu'il n'y avait pas le moindre souffle d'air. De même, son visage semblait pris dans un voile pudique de musulmane. Seuls ses yeux bleus se détachaient du masque d'abeille grouillant paresseusement sur son visage et qui lui cachait la bouche, les narines et le menton. D'autres abeilles, de l'espèce africaine géante brune, les abeilles les plus venimeuses et les plus vindicatives du monde, allaient et venaient sur les bracelets d'acier du baron avant de se mêler aux gants vivants qui couvraient les mains de Misery. Sous les yeux de Geoffrey, les abeilles ne cessaient d'arriver dans la clairière de toutes les directions, et pourtant il était clair pour lui, en dépit de l'état d'épuisement nerveux dans lequel il se trouvait, qu'elles arrivaient surtout de l'ouest, de là où se dressait le grand et sombre visage de pierre de la déesse. Les tambours continuaient de battre leur rythme lancinant, grondement qui, à sa manière, était presque aussi soporifique que le bourdonnement incessant des abeilles. Mais Geoffrey savait à quel point était trompeuse cette impression de somnolence. Il avait vu ce qui était arrivé à la baronne, et il remerciait Dieu que ce spectacle eût été épargné à Yann. Comme lui avait été épargné, ce bourdonnement somnolent montant brusquement pour se transformer en vrombissement hargneux de tronçonneuse. Un son tout d'abord étouffé, puis qui avait fini par noyer les hurlements terrifiés de la femme en train de mourir. Certes, elle s'était montrée bien vaine et bien imprudente, dangereuse même. Et elle avait même failli les faire tous périr lorsqu'elle avait libéré le maître pisteur de Stringfellow, mais stupide ou non, folle ou non, dangereuse ou non, personne au monde ne méritait mort comme la sienne. Dans son esprit, Geoffrey entendait encore l'écho des questions angoissées de Yann. « Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'allons-nous faire pour ma pauvre Misery chérie ?» C'est Zekia qui répondit. Rien pouvoir faire maintenant, Barwana. Tant que les tambours continuent à battre, pas de danger. Et la mame, elle va dormir aussi. Maintenant, les abeilles la dissimulaient sous une espèce couverture mouvante. Ses yeux, ouverts mais ne voyant rien, semblaient s'enfoncer dans une grotte vivante, faite d'abeilles qui rampaient, trébuchaient et bourdonnaient. Et si les tambours s'arrêtent? Demanda Geoffrey d'une voix basse et mal assurée. Et à cet instant précis, leur battement cessa. Incrédule, Paul regarda la ligne qu'il venait de commencer, puis souleva la royale, cette machine qu'il avait soulevée comme un haltérophile quand elle n'était pas dans la pièce. Dieu seul savait pourquoi, et la secoua de nouveau. Les barres cliquetèrent, et un autre morceau de métal tomba sur la planche qui lui servait de bureau. De l'extérieur, il entendait venir le ronronnement bruyant de la tondeuse à gazon d'un bleu éclatant d'Annie. Une tondeuse autotractée avec laquelle elle manucurait la pelouse afin que ses biscornouilles de Reutemann n'aillent pas raconter partout que son gazon n'était pas entretenu. Il reposa la machine à écrire et la plaça de champ, de manière à pouvoir repêcher ce nouveau cadeau surprise. Il l'examina dans la lumière éclatante de l'après-midi qui pénétrait à flots par la fenêtre. Son expression d'incrédulité ne le quitta pas. Gravé en relief et à l'envers dans la tête de la barre, noirci d'encre, on lisait les lettres E majuscule, E minuscule. Histoire de rendre les choses encore plus drôles, la vieille royale venait de recracher la lettre la plus utilisée de l'alphabet anglais. Paul regarda le calendrier. Sur l'image, on voyait une prairie en fleurs, et mai était inscrit au-dessus. Mais Paul s'était fait son propre calendrier, qu'il conservait sur un bout de papier. D'après ce dernier, on était le 21 juin. Envolées les paresseuses journées d'été tissées de brume et de folie, pensa-t-il amèrement. Il expédia la barre dans la direction approximative de la corbeille à papier. « Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?» se demanda-t-il. Mais il savait bien entendu ce qu'il allait faire, écrire à la main. Voilà ce qu'il allait faire. Mais pas maintenant. Alors qu'il s'échinait encore comme un malade quelques secondes auparavant, tant il avait hâte de jeter Yann Geoffrey et le toujours drôle Ézéchias dans l'embuscade tendue par les Bourkas, afin que tout le groupe se retrouvât au fond des grottes derrière le visage de l'idole dans un final à tout casser, il se sentit soudain très las. Le trou dans le papier venait de se refermer avec un bang, sans réplique. Demain. Demain. Il continuerait à la main. Fait chier à la main. Faut te plaindre à la direction, mon petit Paul. Mais il n'en était pas question. Annie était devenue beaucoup trop imprévisible. Il écouta le ricanement monotone de la tondeuse à gazon et aperçut la silhouette d'Annie juchée dessus. Comme souvent lorsqu'il pensait à quel point Annie devenait bizarre, l'image de la hache qui se soulevait puis retombait vint hanter son esprit, suivie de celle de son visage horrible à la mortelle impassibilité, éclaboussé de sang, image limpide et nette. Chacune des paroles d'Annie, chacun des cris qu'il avait poussés, le grincement de la hache s'arrachant à l'os sectionné, le sang sur le mur, tout était d'une limpidité cristalline. Et comme il le faisait aussi souvent, il essaya d'interrompre cette évocation, arrivant une seconde trop tard. Comme le moment crucial de l'intrigue de Fast Cars concernait le très grave accident de Tony Bonassaro dans son ultime effort désespéré pour échapper à la police, ce qui conduisait à l'épilogue, l'interrogatoire musclé de Tony dans sa chambre d'hôpital par le partenaire de feu, le lieutenant Gray, Paul avait interrogé un certain nombre de victimes d'accidents de la route. Et presque toujours, on lui avait fait la même réponse. Les emballages différaient, certes, mais en fin de compte, on en revenait au même point. Je me souviens d'être monté dans la voiture, et je me souviens de m'être réveillé ici, mais de rien de ce qui s'est passé entre-temps. Par quel malheur ne lui était-il pas arrivé la même chose ? Parce que les écrivains se rappellent tout, Paul, en particulier ce qui fait mal. Fous un écrivain à poil, fais le tour de ses cicatrices, et il te racontera en détail l'histoire de la plus petite d'entre elles. Les grandes sont à l'origine de tes romans par l'amnésie. C'est tout à fait utile d'avoir un peu de talent pour devenir écrivain. Mais la seule chose qui soit absolument indispensable, c'est la capacité de se souvenir de la moindre cicatrice. L'art, c'est la persistance de la mémoire. Qui avait dit ça? Thomas Sass? William Faulkner? Cyndi Lauper? Mais ce dernier nom évoqua un autre souvenir, un souvenir pénible et douloureux dans de telles circonstances. Cyndi Lauper chantant joyeusement de sa voix octante « Girls just want to have fun ». Il avait presque l'impression d'entendre encore son timbre. « Oh, daddy dear, you're still number one, but girls, they wanna have fun, or when the working day is done, girls just wanna have fun. » Il eut soudain envie d'entendre un air de rock avec encore plus de force qu'il n'avait jamais désiré une cigarette. Pas chanté obligatoirement par Cyndi Lauper. N'importe qui aurait fait l'affaire, d'où Jésus. Même Ted Nugent lui aurait très bien convenu. La hache qui retombe. Le sifflement de la hache. N'y pense pas. N'y pense plus. Mais c'était stupide. Il n'arrêtait pas de se dire de ne pas y penser, sachant pourtant que le souvenir était là, aussi important qu'un os coincé dans la gorge. Allait-il le laisser là ou se comporterait-il en homme? Et prendrait-il les moyens de se faire vomir cette saloperie? Un autre souvenir lui vint alors à l'esprit. On aurait dit une émission spéciale de Radio Nostalgie, à l'intention de Paul Sheldon, aujourd'hui. Souvenir d'un film cette fois. Oliver Reed dans le rôle du savant fou, mais diaboliquement persuasif, dans The Brood de David Cronenberg. Reed, invitant ses patients de l'Institut de psychoplasmatique, appellation que Paul avait trouvée délicieusement comique, à passer au travers de l'épreuve sans rien éviter en prenant tous les coups. Eh bien, dans certains cas, le conseil n'était peut-être pas si mauvais. Je suis déjà passé au travers une fois, ça suffit, non? Arrête un peu de te raconter des conneries. Si passer au travers des épreuves une fois suffisait, il se serait retrouvé un abruti de marchand d'aspirateurs, comme son père. Alors fonce, mon vieux. Refais tout le chemin, Paul. Commence avec misérie. Non, si, va chier. Paul s'inclina en arrière, mit les mains sur les yeux et, bon gré mal gré, se mit en route. Pour toute l'épreuve.